Y ¿qué haces de eso?
Y al anacre il nemico, che fa sì a
La più vecchia di te.
dire,
La più vecchia di te.
oui, è il proprio, è netto, non ha pas di piccure all'extérieur. Quand l'anacre est un peu piqué, donc elle passe déjà à l'anacre numéro 2. Il y a certains anacres plus piqués que les autres et qui sont cassés, par exemple, par le transport parce qu'elles sont très fragiles, parce qu'elles ont perdu leur vigueur. Numéro 3. Ça, il y a un spécialiste qui est là, qui fait ce genre de travail. Il a l'habitude de faire ce genre de travail. Maintenant, à l'exportation. Le contrôle va se faire comme ceci. La maison, l'acheteur en Amérique, c'est plutôt l'Allemagne qui travaillait avec Tétis, demandait à ce qu'on lui envoie de l'anacre et on discute par exemple sur le pourcentage de l'anacre, par exemple 60% de l'anacre numéro 1, 30% de l'anacre numéro 2 et 10% de l'anacre numéro 3. Et on établit par exemple le prix à l'exportation. Et voilà. C'est qu'il arrive à un moment donné où il va te rester de l'anacre numéro 3. Qui n'a aucune valeur commerciale à Tahiti, ça c'est sûr. Vous avez une chance. Vous avez une chance de pouvoir expédier cette nacre-là, à condition que vous achetez de la nacre de première qualité. Et à quel moment? C'est à la fermeture de la planche. Parce que, comme je dis, lorsque le plongeur va sur le lieu de planche, il rentre à la maison avec sa nacre, il y a deux personnes qui ont droit de choisir la nacre. C'est-à-dire la cuisinière, ce qu'on appelle paraututu. Hein? La cuisinière, elle vient, elle prend trois nacres. Elle choisit les plus belles. Ça, elle ne va pas choisir. Hein?
Numéro 3.
Numéro un. Et le tété aussi choisit quatre nacres à lui.
Ça, c'est pour toute la saison,
Ah non, non. Oui, pendant toute la période de plonge. Voilà son salaire à lui. Parce que tout le reste est envoyé au magasin. Et le magasin, lui, il garde ça parce qu'il y a un compte du plongeur chez lui. C'est ça. À la fin de la plonge, ces quatre nacres de tous les jours, les trois nacres de tous les jours de première qualité, ces femmes-là gardent. Ils ne vont pas vendre à la fermeture de la plonge au prix commercialisé à Rikuru. Ils vont même essayer de doubler. C'est-à-dire, au lieu de 100 francs ou 150, ils vendent à 300 francs le kilo. Comme le magasin, lui, il se trouve à ce moment-là pris au piège parce qu'il a sa nacre de troisième qualité qu'il veut expédier. Et pour expédier ça, il faut quand même une quantité de nacre de première qualité. Il est l'acheteur. Alors, il achète au moins 5, 6, 7 tonnes. Ouais. Voilà le système dans lequel. Il peut payer, expédier la plus grande quantité de nacre numéro 3, parce que ça, c'est un problème. Ce n'est pas encore la nacre numéro 2, c'est la nacre numéro 3. Hein? Et en général, il y a une grande quantité qui reste dans le hangar.
Tes maris disaient que le ma'a qui est dedans pouvait servir. Hein?
Non, 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 non.
Mais bon, le corori,
Oui,
c'est la ballonne, elle est meilleure, c'est la ballonne.
Oui. C'est le piton. Hein, ce qu'on appelle, c'est le piton du chose. Parce que sa chair n'est pas mangeable. Hein. C'est simplement le piton qu'on fait le corori. Alors, il y en a même qui sèchent, qui sur des. Oh, vous voyez? Alors, ce sont des petites choses comme ça, on pique comme ça et puis ils vont sécher. Mais c'est très bon, c'est un peu comme le piton des parois. Hein. Si on le séchait, vous voyez, ils font ça à l'aide de coco.
Bien, il ne s'agit jamais, ces derniers jours.
Voilà. Non, mais quand même, il y a pas mal de choses. Je pense que, hein, il a fallu qu'il soit là pour que ça.
Non, parce que quand justement j'ai un petit peu
De santé de ton plongeur. Hein? Tu n'as. Donc, tu es en train de jouer encore une deuxième fois. En plus de ça, tu as. En prenant ces plongeurs-là, ils sont peut-être une trentaine. Hein, ils sont une trentaine. Donc, tu te dis, tu fais par exemple ton calcul en disant, moi, avec ces 30 plongeurs-là, j'aurai tant de tonnes sur la quantité là-bas à Rikuru. Donc, il y a déjà des pronostics en disant, probablement, tu vas la production, cette planche de ce secteur-là va rapporter 150 tonnes. C'est toujours sur des calculs de probabilité. C'est pas sûr. Et quand ça arrive à 100 tonnes simplement, donc à ce moment-là, tu n'arrives pas à couvrir ton quota vis-à-vis de, l'emprunt que tu as fait. Et alors là, tu dégringoles. C'est ça que Riquet a voulu expliquer tout à l'heure quand la maison a fait faillite. Ça coûte cher, les faillites. Alors, si vous voulez, la première des choses, il fait un contrat. Si le prix de la nacre reste toujours stationnaire, donc il n'a aucun risque là. Mais seulement, il y a risque aussi là. En prenant par exemple des plongeurs sans avoir de sécurité derrière lui, en disant passer une visite pour savoir si telle chose. En plus de ça, s'ils arrivent sur les lieux de choses, ils ne tombent pas malades, c'est encore un risque que le magasin prend. Hein? Et tout ça. Alors tous ces frais-là, le voyage et le rapatriement de chez le magasin, c'est vrai qu'il débite aux choses, mais seulement c'est toujours débiteur, alors ça, c'est un capital qui dort. Voilà le problème.
C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de maisons qui se sont lancées dans les premières de la nappe.
Il n'y en a pas. C'est-à-dire que, en plus de ça, c'est que c'est comme un genre d'engrenage, à mon avis. Ceux qui avaient déjà commencé ne pouvaient plus s'en sortir parce qu'ils avaient déjà des comptes à régler avec certains plongeurs. Oui. Alors, on a toujours continué en essayant de colmater un peu les pertes, hein, mais en fin de compte, à mon avis, ils avaient des risques à chaque fois. Dire par exemple qu'ils ont fait de l'argent, prenons une série de 6 années de plonge. Ben, sur les 6, il y a 4 en perte et 2 en gain. C'est la formule. Hein? C'est ça. Mais lorsqu'on voit par exemple des plongeurs qui vont là-bas plonger, le bois, les tôles, pour construire sa case, c'est le magasin qui le fournit. La nourriture, bien, ils arrivent un mois avant la plonge, c'est le magasin qui fournit. Pendant toute la période de plonge, il y a la nourriture tous les jours. Ils viennent au magasin, ils achètent n'importe quoi. Et le magasin est obligé de fournir. Le samedi, par exemple, c'est qu'à ce moment-là que le magasin lui paye, c'est-à-dire la planche de ce jour-là, le poids de la planche de ce jour-là, qu'il a de l'argent, il essaye un peu d'acheter au magasin. Mais à part ça, il n'y a rien.
Les plongeurs n'avaient, sur les 3 mois de plonge, que de l'argent, que le samedi et le dernier jour. Enfin,
Non. Mais le dernier jour, le dernier jour, il n'y a plus rien.
Ah oui, parce que c'était tout le...
Si c'était un samedi, le dernier jour, eh bien, en fait, ce jour-là, ils vont toucher l'argent du samedi. Hein? Ouais, mais ça s'arrête là. Mais alors, après ça, lorsque ces pommoutous vont rentrer chez eux, il est normal qu'ils vont demander, par exemple, les tôles et le bois qu'on a servi pour construire leur maison, de leur vendre à eux. Ben, le magasin est toujours d'accord de vendre après ça, comme ça il a moins à renvoyer à propriété, hein, au niveau de payer encore le frais du retour. Tout au début de la plonge de la nappe, je me suis aperçu comme quoi que le plongeur venait avec sa pirogue. Mais par la suite, je me suis aperçu comme quoi, non, le magasin a donné la pirogue à chaque plongeur. Pourquoi? Parce que si le plongeur vient avec sa pirogue, de son île, il faut payer le fret, hein, de cette pirogue. On l'envoie au lieu de plonge. Après ça, il faut renvoyer cette pirogue chez lui parce que ça lui appartient. Alors, il y a un fret énorme à payer. Alors, les magasins, ensuite, ont préféré construire la pirogue. Construire les pirogues, par exemple, du magasin, qu'ils laissaient sur le lieu de plonge. Ils avaient un grand hangar. Après la plonge, ils récupéraient toute la pirogue, ils mettaient, ils fermaient à clé, ils rentraient sur propriété. Au moment de l'ouverture, l'année suivante, ils revenaient, on donnait les pirogues à chacun, et puis, vas-y, Toto, comme ça, il y avait moins de transport de pirogues. Voilà. C'était ce que les magasins avaient trouvé par la suite. Mais en fin de compte, ils avaient des gros risques aussi, les magasins. Ils gagnaient à côté, hein? Oui. des risques quand même ici. Aussi à savoir, il y a aussi le kava, le ce qu'on appelle le coco.
Coco fermenté.
Oui, pas le coco fermenté, c'est l'alcool de coco. Mm-hmm. Hein? Tu sais comment on fabrique? Tu sais?
Non.
Alors, je vais t'expliquer. On choisit d'abord le cocotier. On choisit le cocotier, par exemple, qui est très fort en constitution, qui n'est pas tellement haut, et qui est un peu penché. On essaie de faire des entailles dans le tronc pour faciliter la montée. Vous montez sur le cocotier dans lequel vous avez choisi. La première des choses, vous allez sur le cocotier, vous allez mâcher toutes les feuilles. Mmh. Hein, toutes les feuilles de cocotier, vous allez mâcher pour que ça se détache un peu du tronc. Comme ça. Vous enlevez tout ce qui est coco, omoto, papihari, olo, tu coupes tout ça. Tu gardes les feuilles, hein, seulement toutes les choses, tu enlèves tout. Et tu vas détacher les feuilles de cocotier jusqu'aux premières fleurs, tu vois, comme c'est un bourgeon, comme ça, c'est encore dans le bourgeon. Et tu détaches les feuilles en dessous. Tu amarres ce bourgeon et tu essaies de le faire descendre pour arriver à l'horizontale, parce que de ne pas le laisser à la verticale, arriver à l'horizontale. Et quand il arrive à l'horizontale, vous allez le saucissonner complètement, la fleur, hein, le bourgeon de fleurs, le saucisson. Saucissonner complètement et vous allez laisser le bout en dehors. Et vous avez un pot, vous amarrez, que vous allez suspendre sur le bout et vous coupez le bout. Il y a un jus qui va sortir de la mousse d'abord. Alors vous faites la première tranche le matin et à midi vous revenez, vous coupez une petite épaisseur pour laisser toujours le chaud. Saine, hein, c'est-à-dire pas séché. Au début, il y a de la mousse qui va sortir. Et après ça, par la suite, à chaque fois que vous allez couper, vous allez voir un liquide qui va sortir goutte à goutte. Au bout du soir, vous avez à peu près 25 centilitres de ce jus par fleur. Le soir, vous recoupez, pour la nuit, vous avez 25 et vous récupérez ça. Si vous allez goûter ça, c'est tout à fait comme un sirop. C'est du sirop. Si par malheur, vous laissez de l'eau tomber à l'intérieur, c'est le mitihoué. Hein? Donc, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau dedans. Voilà ce fameux sirop qu'on fait distiller pour avoir l'alcool de coco. Ce n'est pas le coco, hein, c'est la fleur, c'est le bougeon.
Ouais. Et donc ça fout le poumon à l'air en l'air.
Oui.
Non, c'est la fleur seulement. Après, si vous laissez après, l'arbre va reproduire, mais seulement pour que, c'est-à-dire c'est la saison. Par exemple, si vous faites du copra, ben vous avez peut-être deux ou trois saisons, c'est-à-dire dans 8 mois, vous n'aurez plus de coco. C'est-à-dire vous êtes obligé de supprimer tout ça. Pour donner de la vivacité à la fleur qui va vous donner le fameux sirop de coco. Voilà.
Il avait un nom, non? À part Avatriti?
Non, c'est pas l'Avatriti, ça. On appelle ça l'alcool de coco. L'alcool de coco, oui. Qui était 90 degrés, hein, quand on appelle la distillation. Hein. Mais c'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai cherché s'il n'y avait pas des alambics, parce qu'ils avaient quand même la marmite qui faisait cette chose. Je n'ai pas trouvé autour de moi, j'ai trouvé au Marquise. Ouais. J'ai trouvé à Pouan, dans un ancien Pouan. C'est-à-dire, vous savez, contre le rocher, il y avait quelqu'un qui avait fait le four à pain. Ça a été abandonné, et quand j'ai trouvé ce petit alambic-là, j'ai demandé à un vieux marquisien qui m'a dit que c'était avec ça qu'on faisait l'alcool coco.
Ah, l'alcool.
C'était la marmite qui faisait l'alambic. Ça. Mais autrement tout, je n'ai jamais vu. Mais je ne sais pas s'il faisait de l'alcool de coco.
Mais comment il distillait?
C'est ça, oui. Mais alors, c'était des spécialistes pour de la bière. Hein. Oui, alors là,
bah, tout ça, partout. On retrouve ça partout.
Et quand ça sortait du coco, après, qu'est-ce qu'on fait?
La
fleur. C'est pas non, le jus, là.
Le jus. Eh bien, il fallait avoir une quantité, c'est-à-dire que tu mettais ça dans un réservoir, il fallait avoir une quantité que, par exemple, 25 litres ou 30 litres. Hein? À ce moment-là, vous faites par exemple l'alcool. Lorsque tu viens à terre et tu cueilles une fleur et tu vas mettre sur l'oreille, vous êtes garanti que dans la nuit, vous allez coucher avec une femme. L'histoire, c'est ceci. Vous êtes allongé sur la plage. Et vous allez voir sortir de la mer une fille blanche, belle, qui va venir à côté de vous et qui va faire l'amour avec vous. Et lorsque elle va vous quitter, elle va marcher en allant du côté de la mer, et avant de disparaître dans la mer, elle se retourne sur vous. Et là, à ce moment-là, vous allez voir que c'est une vieille femme. Alors, pour que cette histoire soit chose, à bord du bateau, quand il y a des jeunes marins qui ne savent pas l'histoire, pour la première fois, on le force un peu d'aller cueillir la fleur et de le mettre à l'oreille. Et c'est normal, c'est un tatatriki, tout à fait normal. Et le soir, quand il va réintégrer son lit, tout le monde va attendre. C'est presque momentané. On va voir le type là, tourner sur son lit en faisant des soupirs et tout ça. Et tout d'un coup, il va gueuler. Hé! Hein? Et il va se réveiller. Pour quelle raison? Parce qu'il a vu qu'il a couché avec une vieille femme. Et c'est le même topo pour tous ceux qui vont mettre cette fleur à l'oreille.
Ah donc... D'après ce que tu racontes, c'est que personne ne voit rien. C'est-à-dire, il n'y a que lui qui est en songe ou dans son sommeil, il fait l'amour. Et...
Oui.
On ne voit pas la tête.
Hein?
Mais vous ne voyez pas la tête.
Non, c'est lui qui voit la personne. Parce que c'est le même topo qui se fait à quiconque que ce soit qui met la fleur à l'oreille. C'est ça.
Et la fille, elle était belle. Et la vieille, vraiment...
Ah oui, elle est laide, alors là, oui, c'est un cadavre, alors, hein, quand elle te quitte. Hein. Oui. Alors,
c'est le seul Tiare-Tahiti qu'il y a sur tout Maropéa, ou il y en a d'autres?
Ah, il y a d'autres Tahiti.
Mais ça, c'est à l'entrée du cimetière.
Je suis retourné, j'ai été revoir le chose, quand il y a eu le cyclone, le dernier Sylvana, je crois, alors, on avait... C'est-à-dire les lames de la mer ont creusé sous le pied, il reste assez basculant comme ça. Quoi qu'il a crevé. Mais c'était à chaque fois, quand le bateau débarquait, il y a un jeune marin, il était sûr que il va mettre la fleur à l'oreille. Et c'est ça l'amusement qu'il y avait à bord.
Oui, c'est lui, si un jour on passe par mon pied.
Oui, mais si ce pied-là existe toujours, parce que. Je pense qu'il a crevé, hein? Parce que comme c'est du côté de la mer, quand il y a eu de la marée, ça a tout dérapé. Moi, personnellement, ça peut être lancé par quiconque que ce soit. Parce que moi, j'ai vu l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire qui s'est passée à Takaroa. Où, pendant la saison de plonge, il y a deux bonnes femmes qui se sont engueulées, qui se sont insultées. Et en fin de compte, il y en a une qui fait, ben, arrêtons tout ça, ben... Ce que tu es en train de raconter va se retourner contre toi. Et elle quitte la scène, si vous voulez, la scène de bagarre, pour entrer chez elle. Arrive une vieille femme, 60 et quelques années. Nous tous, on était là. Tu sais, quand on entendait une bagarre, les gens s'accumulent. Et puis elle arrive, elle interpelle celle qui a fait bagarre avec l'homme. Et elle lui dit, tu sais pas qui c'est cette fille? Alors elle dit, moi je sais pas. Eh bien, c'est la descendante de la de la plus grande lanceuse de sorts des tombes. Et qui a eu tort d'avoir fait ça, parce que ce qu'elle a dit, ce que tu es en train de dire, ça va se retourner contre toi. Je suis sûr que ça va retourner contre toi. Tout le monde est content. Le lendemain matin, c'est-à-dire ça s'est passé vers 5h du soir, nous on était obligés de rejoindre le bateau, parce qu'il était mouillé, parce qu'on débarquait ces fameuses pirogues de la planche de Takaro. Et le lendemain matin, nous, on a réintégré la terre. En arrivant à terre, on a entendu dire que la bonne femme a été moquée. C'est-à-dire que c'est le ventre qui s'enfle. Hein. Alors nous aussi, on essaye de savoir. Et cette vieille-là arrive, on dirait qu'elle a choisi le bon moment, et elle dit, il faut aller demander pardon. C'est la seule chance pour cette femme de ne pas mourir. Demander pardon. Alors, moi, je suggère, par exemple, c'est sa petite sœur qui va faire le jour. Alors, on appelle une petite fille qu'elle avait 11 ou 12 ans, on lui dit, ben, tu vas aller là-bas, tu vas voir la bonne femme et tu vas demander pardon. Alors là, elle part, elle va devant la case de l'autre bonne femme, elle dit, je demande pardon. Alors elle se retourne, elle se dit, mais je demandais pardon, pourquoi? Ben à cause de ma tante. Hein? De ma tante qui t'a lancé un sort. Elle dit, moi lancé un sort, je n'ai jamais lancé de sort. De toute façon, je suis une chrétienne. Hein? Donc je ne vois pas du tout qu'est-ce que c'est encore ces histoires-là. Mais elle avait un i-o dans la main. Elle se retourne sur la fille, elle lance sur la fille ce nion-là en disant « Eh bien, avec vos histoires de tout, papa, je n'ai rien à foutre. » Et elle retourne là. Et cette fille a été récupérée, ce nion, par un geste peut-être comme ça, et elle revient. Et la vieille femme qui lui a dit d'aller en apercevant de ce nion-là, lui a dit « Voilà, nous avons le motif. Hein, » Et elle dit, alors voilà, alors tout le monde autour, tu sais, nous aussi, on allait voir, et elle allume, et ça brûle. Et elle dit, on a sauvé la vie. Et on entend crier dans la maison. Hein? C'est que la bonne femme, vous savez, le ventre avait grossi, c'est qu'elle avait dans le lit, hein? Et ça chlingue énormément. On était obligé de transporter le lit et elle dans la mer pour laver. Elle avait été guérie. Alors maintenant, il y a une question. Qu'est-ce qui a lancé le Mouki? C'est la fille ou c'est la vieille? Ah, la question se pose. Moi, je crois plutôt que c'est la vieille. Elle a tout organisé, hein, à mon avis. Croyez pas?
Il y a le suspense.
Il y a le suspense, oui, mais seulement moi je crois que c'est elle. Là.
Disons qu'elle a dû se servir de la parole de la femme et du geste de la femme. Elle avait besoin que la femme intervienne dans sa parole en disant toi, tout ce que tu as dit va se retourner contre toi. Et quand elle a jeté à la petite fille le niaou, il fallait ça pour la vieille pour qu'elle intervienne. Pour que tout soit. C'est ce qu'on appelle une démonstration, tu vois, devant tout le monde, une démonstration sociale. Ouais.
Et moi, je crois que la puissance de ce Mouki a été occasionnée par les gens qui étaient autour. Hein? C'est eux qui ont donné, hein? Parce que tout le monde était là en regardant, ça va se réaliser, mais quoi? Hein? Tout le monde était là, c'était un peu dans ce sens-là. Et qui a donné une force à cette femme de...
C'est passé dans une saison de planche.
Oui, une saison de planche en 1954 à Takaro. Et ça, les Mouquis, mais il y en a d'autres, alors c'est direct, hein. Ou alors les types sont devenus fous, hein. Ils ne veulent pas voir la lumière.